là pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu trouves ça?
On entre ici dans le Nancy Nouveau, celui de l'art nouveau, avec ses maisons qui ont été décorées par les plus grands noms de l'école de Nancy, Majorel en particulier.
Premier festival littéraire de la saison, le Livre sur la Place s'est ouvert à Nancy avec 600 auteurs invités.
Aujourd'hui un dessert.
Je vais vous faire le gâteau au chocolat de Nancy.
À une ville que je connais très bien.
Aujourd'hui, la Mirabelle. Un Lorrain comme moi ne peut pas évoquer la Mirabelle sans émotion. Lors de ces déjeuners dominicaux, j'ai assisté à des discussions d'une incroyable violence entre certains de mes oncles. Les uns tenant de la Mirabelle de Nancy, pour la meilleure, sans conteste.
Mettez le couvert, on va déguster sur France Inter.
En passant par la Lorraine, on va déguster, à le privilège de dresser le couvert le temps d'une émission à Nancy. Bonjour Nancy, bonjour à tous, merci beaucoup d'être là, nombreux, notre public est installé sous les belles dorures de l'Opéra National de Nancy, devant un public à la fois enthousiaste et j'espère affamé, Nancy qui est ces jours-ci en effervescence à l'occasion du salon Le Livre sur la Place dont France Inter est partenaire et lequel salon se tient jusqu'à ce soir. On va déguster de la littérature aujourd'hui évidemment, mais on va surtout déguster dans cette émission Nancy et la Lorraine à pleines dents et par tous les bouts. La Lorraine, la bergamote, la quiche, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon, mais au-delà de ces emblèmes gourmands, naturellement, la Lorraine, ce sont aussi des trésors bien cachés, voire carrément enfouis dans le sol, comme une certaine truffe, oui, la truffe de Meuse. Pour nous aider à cuisiner local, nous avons sur notre plateau trois personnalités autant saveurs. Il y a d'abord, à ma droite, Cyril Leclerc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes... Un pur nancéen, chef du château d'Adoménil, une étoile Michelin à Lunéville, c'est à peu près une quarantaine de minutes, quarantaine de kilomètres de Nancy.
Oui, c'est ça, oui.
Vous travaillez avec votre femme Sophie, qui est très importante, elle fait un fantastique travail de sommellerie. La Lorraine, eh bien, elle affiche chez vous à la fois un visage classique et contemporain, on va le voir. Et une de vos missions dans cette émission, évidemment, c'est de réhabiliter la quiche lorraine, qui a été, on va le voir, assez malmenée ces derniers temps, on va comprendre pourquoi. Marie de Metz Nobla, bonjour.
Bonjour.
Comme votre nom l'indique, si je l'ai bien prononcé, vous êtes du coin?
De Metz depuis le 14e siècle.
Ah oui, d'accord,
en fait,
on peut dire vous êtes du coin, oui.
Ça remonte.
Oui, effectivement. Et vous défendez les couleurs de votre région à l'épicerie du goût. C'est une épicerie fine. Vous nous en donnez l'adresse?
4 place Vaudémont, donc vous regardez la place Stanislas. Stanislas montre du doigt la place Vaudémont et mon établissement.
C'est bien dit, et là-bas on y trouve à peu près les meilleures choses de Lorraine.
On a plus de 1000 produits lorrains sur les 1500 références que nous avons, sachant que le Lorrain n'est pas chauvin au point de ne manger que lorrain, nous avons d'autres choses.
Oui. Absolument, mais là on va se limiter effectivement dans votre énorme panier qui est à votre gauche aux produits lorrains. Il y en a plein partout, on va en déguster quelques-uns et en faire passer à notre cher public pendant l'émission. Je pense qu'on va se régaler objectivement, Elvira.
Je le crois.
Bruno Collin, bonjour.
Bonjour.
Notre ami Bruno Collin est producteur de, devinez quoi, Mirabelle. Il y en a partout sur le plateau dont on va déguster. Directeur de Vega Fruits. Alors ça, c'est la structure collective de commercialisation et de transformation des producteurs de Mirabelle. On a de la chance, il en reste encore pour quelques jours, sur les étals de France et de Lorraine, cette délicieuse prune ronde et dorée. C'est la reine de Lorraine. Vous allez nous raconter en plus une belle success story à la française. En ces temps moroses, on en a besoin. On va voir que c'est tout gagnant sur le plan gustatif, économique, environnemental. C'est un fruit qu'on aime défendre. Elle est blonde, dorée et délicate. Alors bon, je ne veux plus parler de la Mirabelle, hein, mais d'Elvira Masson, bonjour.
Bonjour à tous.
Elvira, vous n'auriez pour rien au monde manqué votre train avec ce qui vous attendait à Nancy.
Qui dit Nancy dit a priori un peu paradis sucré.
Absolument.
Il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire, c'est même assez délirant.
Ouais.
On va voir ça et on va se régaler. Notre émission, je tiens à le préciser, se déroule sous l'œil avisé, amusé, aiguisé de notre amie Kat. Je vous demande de l'applaudir. Elle est dessinatrice de presse. et gastronome. On peut d'ailleurs retrouver ses prouesses sur son blog, un dessin par jour. Et on retrouve les dessins consacrés, dédiés à cette émission. On a un peu peur parce que parfois c'est un peu du rail et un peu moqueur. Mais on peut les retrouver en tout cas.
Un petit peu.
Vous allez être gentil, hein, Kat.
Oui.
Bon, on est rassuré. En tout cas, là, dégainer ses stylos et ses pages blanches. Ah, déjà,
il y en a un.
Elvira va aller le chercher.
J'ai une drôle de tête, là, Kat. Je me méfie un peu.
En tout cas, on peut retrouver ses dessins tout au long de cette émission sur le site internet franceinter.fr à la page où on va déguster. Qu'est-ce que ça dit, le premier dessin ?
Facile, la cuisine lorraine. Migaine dans la quiche.
La migaine.
Migaine, mais oui, migaine dans la quiche et pas sur les mirabelles. Ça commence bien.
La migaine, la migaine. On va faire la distinction dans un instant, rassurez-vous. Nouez vos serviettes autour du cou et bon appétit à Nancy.
Sur France Inter, avec François-Régis Boudry, on va déguster.
On se disait avec Elvira ce matin qu'on avait de la chance d'être à Nancy et c'est pas pour flatter notre public, on est dans l'Opéra National de Lorraine, juste à côté quand même de ce qu'on pourrait appeler la plus belle place de France.
Ah ouais, je le crois, elle est magnifique.
La place Stanislas. L'élégance. Incroyable, en plus il y avait ces jolis rayons de soleil. Et vous connaissez notre manie dans l'émission On va déguster, pour prendre le pouls d'une ville, la première chose qu'on commence par faire, eh bien c'est de se rendre au marché, c'est la meilleure façon de voir ce qu'une ville a dans le ventre. Et là, on a été plutôt gâtés ce matin. Elles sont belles, ces halles.
Elles sont magnifiques, ouais.
Ces halles
généreuses. Sublime, plein d'étals. Il y a des petits pâtés lorrains qui m'ont fait de l'œil ici et là.
Vous avez un problème avec les pâtés lorrains.
Oh, j'adore ça.
Pâté lorrain, définition, vite.
C'est de la viande marinée et enrobée d'une pâte feuilletée.
Marinée dans quoi, au juste ?
Chut, c'est le secret. Ah.
Comment ça, c'est le secret ? On veut savoir.
Il y a du vin, ça, je vais vous le dire.
C'est voilà. Produit en Lorraine.
Chers amis, oui, d'accord. Marie de Metz-Nobla et puis les autres invités, évidemment. S'il fallait ne retenir pour vous qu'une seule adresse, un seul étal à conseiller à nos auditeurs dans toute la France pour se rendre au marché de Nancy, vous diriez quoi, Marie ?
Les Frères Marchands, fromager.
Bien sûr, incontournable, bien sûr. Les Frères Marchands,
oui.
Qui d'ailleurs préparent un record.
Ils préparent le record du plus grand buffet de fromage du monde qui aura lieu le week-end de la gastronomie, le 24 et le 25 septembre prochain.
C'est ça, c'est la fête de la gastronomie,
oui,
absolument.
Tout à fait.
Eh bien écoutez, on essaiera. Alors,
chapeau pour eux.
On essaiera d'y être. Donc oui. Les Frères Marchands, incontournables évidemment. Bruno Collin.
La Maison Chalère. Les poissons, les crustacés.
On très bel étal luisant de fraîcheur.
Voilà, on est un peu loin de la mer, mais ils font le maximum pour qu'on soit très très proche et que ça soit délicieux.
Parfait.
Et frais.
Ben, on retient effectivement cette adresse. Je me tourne vers Cyril Leclerc, notre chef.
Moi, je n'ai pas très original, les Frères Marchands également, avec qui je travaille cette maison depuis très longtemps. Et c'est vraiment des frères qui se battent pour notre région.
Et pour quel fromage en particulier ?
Le carré de l'Est, la tombe de Pierre Percé,
le petit
gros lorrain, ouais. Qui est exceptionnel aussi comme fromage. Ils se battent vraiment pour notre région.
Des fromages qu'on connaît un petit peu moins d'ailleurs.
Oui.
Est-ce qu'il y aurait par hasard, parce que je crois savoir qu'il y a quand même quelques ressources fromagères en Lorraine, et notamment un certain Münster.
Il y a le Münster dans sa version Jérômé.
Alors,
à voir entre le Münster et le Jérômé, c'est deux produits qui sont sous la même appellation, mais qui sont complètement différents.
Mais expliquez-nous, parce que c'est vrai que la nuance est un peu subtile à comprendre. Le Münster d'un côté, le Münster Jérômé de l'autre, qui est plutôt lorrain.
Les hautes chaumes des Vosges, où pâturaient les vaches l'été, eh bien, elles étaient fréquentées par les troupeaux alsaciens ou les troupeaux lorrains. Les Alsaciens préfèrent les fromages plutôt plats et coulants.
Oui.
Et les Lorrains les préfèrent plus généreux, plus épais, mais pas du tout coulants.
Vous êtes de quel côté dans le public ?
Lorrain.
Lorrain, évidemment, d'accord.
Jérômé, quelle question.
Münster, Jérômé. Ah, vous l'avez en plus ?
Bah oui, bien sûr, je me balade jamais sans moi. Bombe.
Vous êtes prié de le déshabiller et on va se le manger.
Vous êtes sûr, François-Régis ?
Ouais. Attendez, Münster, Jérômé, Mirabel, moi je pense qu'il y a un truc à faire.
Super.
Mariage d'amour en prévision, ça me paraît assez certain. Bon, on commence à bien rigoler, sauf que là, je vais ternir un peu l'ambiance avec un débat existentiel autour d'une spécialité du cru.
La quiche.
Moi, j'irais même jusqu'à penser qu'on pourrait enseigner, ça devrait faire partie des programmes, par exemple, d'enseigner les grands classiques de la cuisine française. Je prends un exemple qui me tient à cœur et qui a encore été bafoué dernièrement devant 3 millions de téléspectateurs, la quiche lorraine. Je pense qu'on pourrait intégrer, apprendre aux enfants ce qu'est une quiche lorraine.
Bafoué où ça ? C'était, j'ai loupé quelque chose. À Masterchef, ils ont bafoué la quiche lorraine.
Ils ont fait une quiche lorraine avec du gruyère, avec de l'emmental râpé dedans, ce qui est strictement prohibé et qui peut vous valoir des peines très lourdes entre Nancy et Metz.
On va déguster.
C'était le coup de gueule de Jean-Paul Genet, journaliste gastronomique du Monde, il y a quelques années, sur les ondes de France Inter. Et oui, alors la quiche lorraine, le paradoxe, c'était que c'est effectivement l'une des recettes les plus fameuses du patrimoine culinaire français. Je crois même pouvoir dire raisonnablement que c'est l'une des recettes françaises les plus connues dans le monde. Si vous allez au fin fond de l'état de l'Ohio, on sait ce que c'est qu'une quiche lorraine.
Et c'est souvent l'une des premières recettes qu'on commence à faire quand on se met à cuisiner, quand on est ado.
Exactement. Ouais.
Ouais. Et pour autant,
vous en faites des quiche lorraine.
Bien sûr.
Oui, c'est ça. Mais en même temps, le paradoxe, c'est que c'est effectivement, comme bien des recettes populaires, peut-être bien l'une des recettes les plus martyrisées, les plus galvaudées. Tirons les choses au clair, car il y a une très très belle tarte, une quiche plutôt, qui nous fait de l'œil. À ma droite, elle a été faite par le chef Cyril Leclerc. Fromage, or notre fromage.
Notre fromage.
Sûr ?
Ah, sûr, sûr, sûr.
Parce que moi, j'ai entendu dire quand même, je voudrais pas donner raison à ceux qui font des bêtises dans Masterchef. Et je crois que ça venait d'ailleurs d'un chef d'origine lorraine, mais qui ensuite s'est rattrapé. Il se trouve que c'est Frédéric Anton, je crois qu'il est originaire d'Épinal. C'est le chef 3 étoiles du Précathlon à Paris. Il avait mis pour les besoins de la production un peu de fromage, mais il avait bien dit, précisé après, qu'en fait, d'habitude, il n'en mettait pas. Mais on est d'accord qu'on ne met pas de fromage, même si je crois qu'il y a des dissidents quand même du côté de Metz.
Oui, il y a des dissidents, mais une quiche lorraine, il n'y a pas de fromage. C'est crème fraîche, lait, œufs, lardons fermiers, et voilà.
C'est ça. Pas de brisé ou pas de feuilleté ?
Pas de brisé, en ce qui me concerne.
Lait ou crème ?
Lait et crème, crème épaisse.
Noix de muscade ou pas de noix de muscade ?
Moi, je n'en mets pas, personnellement. Je pense que la noix de muscade n'a rien à faire dans une quiche lorraine. Le lard est là pour exprimer toutes les saveurs de notre région.
Lard fumé ou non fumé ?
Légèrement fumé.
Ah, légèrement fumé. Car oui, c'est une manie, la charcuterie lorraine est effectivement bien fumée. On peut même dire que de temps en temps, quand on mange une saucisse ou un fuseau lorrain, on a un peu l'impression de lécher un conduit de cheminée. Hein, mais parfois, c'est pas toujours super délicat le fumage. Parfois, ça y va un petit peu fort. Moi, j'aime bien quand c'est légèrement nuancé. Mais bon, enfin, vous aviez un truc à dire, Elvira ?
Je pouvais faire un commentaire sur un dessin de 4, mais peut-être qu'on attend d'avoir fini la recette.
Non, allez-y. Non.
Pas de fromage dans la quiche lorraine, c'est pour manger après avoir fait la cuisine. On voit un petit bonhomme qui est en train de se goinfrer de, je sais pas, peut-être de Master Jérôme, à mon avis.
Mais vous êtes d'accord sur la charcuterie, Marie de Mestrebla ?
La charcuterie est forcément fumée. C'est une façon de conserver très traditionnellement. On fume ou on sale. Et chez nous, en Lorraine, on fait les deux. D'ailleurs.
Alors, la recette, Cyril Leclerc, franchement, elle a l'air absolument terrible. On sait qu'il faut donc de la pâte brisée. Ça, vous la faites à la maison ?
On l'a fait à la maison.
Comment vous la faites ?
Bah, c'est farine, beurre, eau, sel. Voilà.
200 grammes de farine, 100 voilà. grammes de beurre, un voilà. peu de sel et de l'eau.
Voilà, 2 grammes de sel et un petit peu d'eau. Voilà.
Vous nous autorisez à acheter une pâte brisée pure beurre
chez votre pâtissier, oui.
Chez
votre pâtissier, je préférerais, chez un artisan. Ça serait plus mon...
La pâte à dérouler du supermarché, c'est pas votre truc, hein.
J'ai un peu de mal.
D'accord. Donc, pâte brisée à la maison, référez-vous à la recette qui figure sur notre site internet. On la laisse reposer, ouais.
Oui, moi je la laisse reposer. Je la fonce quand je fais ma pâte. Je la laisse reposer minimum une demi-heure, voire deux heures, et je la fonce, et après je laisse encore reposer ma pâte.
C'est ça. Ensuite, donc, vous l'étalez.
Voilà.
Est-ce que vous précuisez votre pâte ?
Alors, je précuis. En tant que professionnel, je précuis ma pâte pendant 10-15 minutes.
Oui.
Pour que l'appareil à flanc ne soit pas dangereux.
Et ensuite, on met dedans. Alors, il faut donc de la poitrine fumée.
De la poitrine fumée. Donc là, j'étais chez mon boucher charcutier où il fume généreusement. Donc je l'ai blanchi un petit peu, mon lard. Mm-hmm. Et j'ai incorporé mes œufs, ma crème fraîche, et mon lait et ma crème liquide.
D'accord. Il faut combien d'œufs ?
Moi, je mets entre 8 et 10 œufs au litre de crème.
Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème dans le public ?
Bah, ça fait beaucoup quand même, non ?
Non, je prends les petits œufs, hein. Ce ne sont pas des gros œufs, c'est des
petits œufs de caille.
C'est ça. Non, il me précise sur sa fiche, effectivement, des petits œufs entiers bio. On part du principe que ce sont des petits œufs
voilà.
de caille, c'est ça ?
Voilà,
sel, le poivre, donc je vois effectivement qu'il n'y a pas de muscade.
Non.
Alors, ce que Elvira appelait...
La migaine.
Voilà. Rappelez-nous, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un dans le public peut nous dire ce que c'est qu'une migaine ? Parce que c'est effectivement un terme qui est...
Une migaine, c'est une migaine, on vous répondra.
Non, mais c'est quoi ? Une migaine, c'est un appareil, comme l'a dit notre
c'est
chef.
C'est la garniture, en fait, de la quiche.
C'est les œufs,
c'est crème. L'appareil à flanc, donc c'est les œufs. C'est les œufs, c'est une base d'omelette, en fin de compte. C'est les œufs qui sont légèrement fouettés, où on incorpore notre crème, notre lait, le sel et le poivre, tout c'est simplement. Ça.
Donc on a mis nos lardons un peu refroidis au fond de la pâte, voilà. Qui a légèrement précuit, on l'a compris,
voilà.
Et piqué à la fourchette.
Voilà, on a déposé nos lardons et on a versé notre appareil à notre migaine dessus.
Et on met quand le fromage ?
On n'en met pas.
Non,
Mais alors comment on fait pour
je déconne.
Comment on fait pour qu'elle soit bien dorée comme ça ?
Oui.
Faut la passer un petit peu sous le grill au bout d'un
non,
moment ?
Non, pas du tout, non. J'ai mis four à 220 pendant 35-40 minutes, tout simplement.
C'est ça, four à 220 pendant 35 minutes et la meilleure façon de repérer effectivement... Une belle quiche lorraine, c'est quand elle a le bronzage d'Elvira Masson.
Voilà. Voilà.
C'est ça.
Ce côté ambré.
On a le droit de la goûter ou pas?
Ah, bien sûr.
Eh bien, vous nous en découpez une part, non? Elle a l'air franchement incroyable. Ouais. Je ne dis pas ça pour flatter notre chef, mais ça, c'est vraiment la belle quiche lorraine. Dans toutes ses formes, revisitée, même pas revisitée d'ailleurs.
Non,
au pied de la lettre.
Au pied de la lettre, oui.
Par un chef étoilé, Cyril Leclerc, au château d'Adoménil, hein, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Alors, à part la quiche lorraine, évidemment, de temps en temps, on a cherché, on a un peu plus de mal à citer des spécialités ou des recettes lorraine. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat au risque de provoquer des huées dans notre public et d'être interdit de séjour à Nancy. Est-ce que on a le droit de dire que la Lorraine n'est pas le terroir français le plus charismatique?
Attendez, on peut pas dire ça.
Non.
Attendez, je pose la question à nos invités.
Huée.
Non, mais est-ce que par exemple une certaine Alsace ne vous ferait pas de l'ombre?
Non, pas du tout.
Ouh là là, non. Justifiez-vous,
non,
Marie de Metz-Noblin.
Pas du tout. On a des superbes plats en Lorraine. Hein. Faut venir au moment de la Saint-Nicolas, vous comprendrez le rôle du petit salé et du saloir.
Mais on a l'impression que vous allez nous donner un coup de bâton là.
Ah oui.
Je vous rassure, vous il est mou, mon bâton. Il est très très mou. C'est le fuseau lorrain.
De quoi s'agit-il?
Et moi, je l'aime comme ça. C'est le saucisson de mon enfance. C'est mou et fumé, bien sûr.
C'est mou et fumé, et c'est du fuseau lorrain.
Alors, il y en a qui le préfèrent plus dur. C'est comme moi, la quiche lorraine, je la préfère à la pâte feuilletée, pas vous?
Si. Ah, voilà, c'est possible.
Les deux écoles.
D'accord. Hein, voilà. Quelques autres recettes lorraines?
L'andouille du Val d'Ajol.
Fumée toujours?
Fumée, bien sûr.
Il n'y a pas qu'à Vire en Normandie, à Guéméné en Bretagne, qu'on fait de l'andouille. Quelle est la différence alors?
Celle-ci, elle a très peu de tripes, beaucoup de maigres fumées.
D'accord.
Voilà. Donc, quand on la fait cuire, puisque là, elle est immangeable comme ça, il faut la faire cuire, eh bien, elle ne va pas avoir ces odeurs un petit peu, parfois, désagréables de certaines de ses cousines.
Il y a également la potée lorraine?
La potée lorraine, oui. Oui, la potée lorraine. Né de Lorraine, vraiment que fabriqué en Lorraine.
Bruno Lorrain, on a le droit de dire que le terroir lorrain est, on va dire, d'extraction paysanne, ce qui d'ailleurs n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche.
Bien sûr. Beaucoup de belles recettes dont on parle là sont issues de l'agriculture, de la production locale. Et ça a beaucoup de goût parce qu'on les fume, effectivement, les charcuteries, mais également parce que nos terres sont difficiles, le climat est parfois un petit peu compliqué, et ça donne beaucoup de goût, beaucoup d'arômes.
Par contre, une petite chose qui aime bien votre climat, c'est la prune dont vous allez nous parler dans un instant, mais il y a encore un peu de suspense autour de cette prune de Lorraine. Cyril Leclerc, alors vous avez une démarche gastronomique, vous l'appliquez à un terroir qui est la Lorraine, vous revisitez parfois de façon contemporaine recettes.
Oui, on revisite les recettes locales très contemporaines, en pleine saison, surtout de la Mirabelle ou la Saint-Nicolas. Et il faut toujours donner un clin d'œil et faire vivre nos recettes à travers notre époque.
Très bien. Elvira?
Je vous coupe un peu quand même. Je dément, je m'inscris en faux, parce que côté sucré, quand même la Lorraine. Côté confiserie, douceur,
évidemment.
Sucré, et même historiquement.
Évidemment.
Stanislas Leszinski, pour ne pas le renommer encore une fois, qui était le roi déchu de Pologne, souverain des duchés de Bar et de Lorraine, c'était vraiment un esthète, un gourmand. On lui doit beaucoup de spécialités sucrées. Il adorait les Mirabelles, il adorait les dragées de Verdun, les nonnettes de Remiremont. On lui devrait beaucoup de choses. On lui devrait même la bergamote. Son chef d'office, Joseph Gillier, faisait des pastilles à l'essence de bergamote de Calabre, qui sont à l'origine de la bergamote. On entend même qu'il aurait inventé la pâte feuilletée, plus ou moins.
Ah, vous êtes d'accord avec
ça? Oui, sur la pâte feuilletée, oui. Les bouchées à la reine, c'est pour l'honneur de Marie Leszinska, donc la fille de
Stanislas. Le baba au rhum, Nicolas Storer, son chef pâtissier.
Pas au rhum, au toquet.
Au toquet, bien sûr. D'abord.
Au toquet, donc, d'accord. Donc effectivement, figure emblématique de l'histoire de la gastronomie française en général et Lorraine en particulier. Donc je retire ce que j'ai dit, pardonnez-moi. Dans un instant, on fait la part belle à la Mirabelle. So pardon if I'm impolite, I just really need your ass with me. I'm sorry about the other night, and I know I could be more creative and come up with poetic lines, but I'm tired of obsessing.
L'appétit vient en écoutant. On va déguster sur France Inter.
C'était Higher, la chanson de Rihanna. Nous sommes à Nancy où nous dressons le couvert. Merci d'être là, cher public. Nous sommes en compagnie de Cyril Leclerc, le chef du château d'Adoménil à Lunéville. Oui, j'ai eu l'occasion il y a quelques années de m'attabler chez vous. J'en ai gardé vraiment un souvenir ému. Et je l'avais même dit et écrit à l'époque. Bruno Collin, vous êtes producteur de Mirabelle. Et à vos côtés, il y a Marie de Metz Noblat qui défend le terroir lorrain. Une petite spécialité, une autre spécialité comme ça à nous signaler en passant, sortie de votre panier.
Ah oui. La truffe de Meuse. La mésentéricum, tuber mésentéricum, une truffe qui est extrêmement puissante et qui est une truffe d'hiver. Donc là, je voulais apporter délicatement coupée et congelée par mes soins. Ça parfume extraordinairement.
Oui. Je l'ai senti juste avant les... J'ai le droit de dire que c'est un peu pétroleux.
Oui.
Non, c'est vraiment très fort. Il y a des notes un peu d'hydrocarbures. On se croirait un peu à la station essence.
Non, même pas.
Quel poète.
Non, mais c'est pas...
On en met 5, 6, 10%, c'est déjà trop fort. Alors, vous savez, dans certaines truffes, il faut vraiment charger pour avoir l'arôme de la truffe. Là, c'est vraiment... Il n'y a pas besoin de rajouter un arôme synthétique.
Hein. Cyril Leclerc, vous l'utilisez, la truffe de Meuse?
Oui, en saison, oui.
C'est pas une truffe noire, mélanosporum, comme dans le Périgord ou à Richeranche.
Elles sont complètement différentes. Elles s'appellent mésentéricum parce qu'il paraît pour les amateurs d'anatomie que les nervures internes représentent le mésentère, qui est une partie de notre estomac.
Il y a une remarque dans le public ou une question. Bonjour, vous appelez ?
Bonjour, je m'appelle Elissa.
Bonjour Elissa.
Justement, pour continuer sur la Meuse, vous avez oublié de citer la Madeleine de Commercy.
Ah oui, ça c'est de la faute d'Elvira.
Absolument.
La Madeleine de Commercy,
évidemment. Une servante à la cour de Stanislas lui avait soumise un soir de fête.
Bravo.
Tout à fait.
Et est-ce que le fameux Proust aurait mangé de la Madeleine de Commercy, justement, ou pas?
Il me semble que c'est celle-là dont il parlait.
Absolument. Eh bien écoutez, vous avez raison de nous rappeler à l'ordre. Merci beaucoup pour cette précision. Venons-en à un petit soleil qui vient percer de temps en temps dans le ciel un peu brumeux de Lorraine, des fois.
Pas brumeux du tout.
Un petit fruit rond et doré, c'est la Mirabelle, évidemment, la fameuse Mirabelle de Lorraine, l'une des plus fameuses ambassadrices de la région, n'est-ce pas, Bruno Collin?
Ah oui, c'est une belle ambassadrice, blonde, fine et élégante.
Et c'est une variété de prunes?
C'est une variété de prunes. Effectivement, on n'aime pas dire que c'est une prune, c'est la Mirabelle.
C'est la Mirabelle.
Je crois qu'en patois lorrain, d'ailleurs, il y a un mot pour prune et Mirabelle.
Comment qualifiez-vous la récolte, le cru, le millésime 2016?
Très aromatique.
Ah oui?
Le premier jour, quand on est rentré dans nos exploitations, dans nos vergers, dans nos stations fruitières, ça sentait la Mirabelle, c'était puissant. C'est assez rare.
Beau calibre,
oui, elle est toujours belle en Lorraine. Donc.
Et je crois que la saison, par contre, était un peu tardive.
Oui, un peu plus tard, une dizaine de jours.
Ça commence.
La faute au printemps, la floraison a du mal à venir et il faisait froid, pluvieux.
Donc les premières Mirabelles ont débarqué quand sur les étals?
Vers le à peu près mi-août, 20 août.
Et là, on en aura jusqu'à quand?
Et là, encore une bonne semaine. Voilà, faut vite en profiter. Hein.
Le prix constaté, à peu près, une échelle?
Entre 3 et 5, 3 et 6 euros.
Ce qui reste
c'est raisonnable. Oui.
Et cette Mirabelle, précisons-le, c'est une vraie success story agricole, gastronomique, économique. Vous avez d'ailleurs reçu l'an dernier le prix de l'excellence française, la filière Mirabelle.
On en est très fiers.
On peut applaudir ce prix, ça, franchement.
Bravo.
À l'heure où on déprime un peu en France, ça fait quand même plaisir d'entendre de vraies belles histoires. La Mirabelle, c'est quand même 250 producteurs, 3000 emplois. Ce sont 1000 hectares de vergers pour environ 8000 tonnes de fruits récoltés chaque année, c'est cela?
Oui, c'est ça. Oui, c'est une jolie histoire collective, ce qui donne encore plus sympa, et qui a démarré il y a une vingtaine d'années, en fait, les 20 ans de notre signe de qualité, l'IGP Mirabelle de Lorraine.
Parce que vous avez effectivement une indication géographique
protégée
et voilà. Vous avez fêté les 20 ans l'an dernier. Hein.
On vient d'en fêter les 20 ans, là, et c'est vraiment une belle histoire. Et puis, du coup, des jeunes nous rejoignent, plantent des nouveaux vergers, de jeunes vergers, et c'est ce qui donne le dynamisme et la modernité, peut-être, à ce très ancien produit lorrain.
À quand remonte l'histoire d'amour entre la Mirabelle et la Lorraine?
Je pense que ça fait une vingtaine de siècles que les Lorrains et la Mirabelle se connaissent, puisque les Romains ont diffusé la Mirabelle un peu partout, et puis elle a vraiment trouvé sa terre d'accueil ici en Lorraine.
Ça veut dire que c'est vraiment un fruit qui est adapté à quoi? À l'hygrométrie, au climat, au sol?
au sol particulier, très argileux, très, très difficile. Le mirabellier est un arbre très, très vigoureux. Les Lorrains qui s'expatrient dans d'autres régions en plantent tous dans leur jardin et ça devient des très grands arbres avec beaucoup de feuilles, mais oui, peu de très bonnes mirabelles, forcément.
Bien sûr. On entendait au début de cette émission, je ne sais pas si vous avez reconnu sa voix, un fameux Lorrain qui m'a précédé à ce micro à France Inter. On salue sa mémoire, évidemment, c'est Jean-Pierre Coff, oui, qui était Lorrain. Qui était Lorrain, et effectivement, c'était un grand défenseur de la Mirabelle. Je crois, oui, d'ailleurs que vous lui rendez aussi hommage à votre manière.
Oui, oui, on lui a dédié un petit verger, parce qu'il a fait une émission en direct il y a pas mal d'années, autour d'un mirabellier, autour de la Mirabelle. Donc on lui a dédié un verger qu'on plante cet automne.
Magnifique, ça, il va regarder ça de là-haut, je pense que ça va lui faire, voilà, plaisir. Il évoquait dans son témoignage une petite querelle dans les familles, entre deux variétés de Mirabelle, d'un côté la Mirabelle de Nancy, de l'autre la Mirabelle de Metz. Qu'en est-il ?
Je ne suis pas assez vieux pour vous en parler.
Il n'y a plus
de Mirabelle de Metz dans les vergers.
Ah, il y a une variété qui a croqué l'autre.
Oui, voilà.
D'accord. C'est le match Nancy-Metz et là, c'est Metz qui a gagné. C'est Nancy qui a gagné.
Non, stop. C'est la Lorraine qui a gagné.
Oui, c'est ça. Ah,
voilà, c'est une Mirabelle de Lorraine. Donc, il n'y a pas de Mirabelle de Metz ou de Nancy. Effectivement, sur le plan botanique, il y a une origine Mirabelle de Nancy, Mirabelle de Metz. Dans nos conservatoires, on a des petits vergers où on garde toutes les variétés. On a la Mirabelle de Metz. Mais la Mirabelle de Nancy est vraiment la Mirabelle de Lorraine, en fait. Voilà.
La Mirabelle de Lorraine, question très importante pour nous qui portons ses valeurs dans cette émission, est-elle, j'ai un peu une petite idée de la réponse, mais respectueuse de l'environnement ?
Ah oui, on n'est pas par hasard depuis 20 siècles dans la même région, on s'entend bien et on se développe bien, on se connaît bien en fait. La terre, le sol, le climat, la variété et les hommes, les Lorrains, savent très bien, ça fait vraiment une équipe gagnante. Donc bien sûr, c'est notre environnement. Moi je suis arboriculteur, je vais dans mes vergers tous les jours. Donc.
Mais ça veut dire quoi concrètement, les intrants de synthèse ?
Bah, concrètement, par exemple, un mirabellier en Lorraine, il a 40 à 45 mètres carrés pour vivre.
D'accord.
Donc je pense que tous les Parisiens ou les Nancéens centre-ville qui nous entendent mesurent ce que ça représente.
Bien sûr.
Voilà, donc l'arbre est épanoui, il est très aéré. Donc ce qui fait qu'on connaît son mode de vie, on le respecte.
Oui.
On plante toujours nos vergers comme nos grands-pères et comme leurs grands-pères.
Mm-hmm.
Et ce respect-là fait que l'environnement, la nature est tout à fait respectée.
Vous favorisez la vie des insectes qui vous aident à une certaine lutte biologique aussi ?
Oui, voilà, on utilise beaucoup de moyens de lutte biologique avec par exemple des coccinelles pour nous aider. On respecte beaucoup les abeilles, les bourdons qui nous aident beaucoup au moment de la floraison, surtout qu'on est dans une région où parfois au printemps les matinées sont froides.
Oui.
Et donc c'est des insectes qui ont du mal à travailler quand les températures sont froides, donc c'est très important pour nous d'avoir l'appui des abeilles et des bourdons au moment de la floraison.
Il existe une Mirabelle bio d'agriculture biologique ?
Il existe des Mirabelles bio, c'est un peu une locomotive pour nous, ça nous permet de toujours progresser, d'adopter de plus en plus de méthodes biologiques.
La proportion ?
10% de la production.
Ah, quand même.
Oui, des surfaces qui sont en bio. Alors.
Et vous faites en sorte que ça progresse ?
Et on essaye de faire progresser, c'est pas facile parce qu'il faut considérer nos arbres, et puis ça reste une filière économique. Donc les familles et les agriculteurs demandent à vivre de leur métier.
Il paraît que dans la Mirabelle, c'est comme dans le cochon. Tout est bon, même le noyau.
Oui, même le noyau, là. Oui, c'est vrai, tout est bon. Alors ça sert, je voulais demander au chef d'ailleurs, comment vous faites pour pré-cuire la tarte ? Vous mettez des noyaux de Mirabelle sur la pâte ?
Non, des noyaux de Mirabelle, oui.
Des noyaux de cerise.
Parce que je crois que ma grand-mère faisait ça, elle mettait des noyaux de Mirabelle pour pré-cuire. Donc, à part cette utilisation-là, on a découvert, avec les chercheurs de l'Université de Lorraine d'ailleurs, que l'huile contenue dans l'amande du noyau de Mirabelle était extra. C'est une très très belle huile qui est utilisée aujourd'hui en cosmétique.
Ah oui, carrément.
Elle a des qualités hydratantes pour la peau et des qualités pour l'huile de massage.
Ce qui explique votre teint et votre peau magnifique.
Voilà, ma très belle santé, merci.
Parce qu'il y a quand même, je crois, j'étais assez ahuri par le chiffre. Combien de vous produisez de noyaux de Mirabelle du coup ?
Eh bien, on produit de 200 tonnes de noyaux de Mirabelle.
Bon, il y a les Mirabelles qui finissent dans les poubelles, hein, parce que vous ne les vendez pas dénoyautées.
Non, non.
Mais ça, vous parlez des noyaux ?
C'est celles qu'on dénoyaute pour les surgeler.
Voilà.
Pour les surgeler, les préparer pour les tartes.
D'accord.
C'est le meilleur moyen de les conserver. D'ailleurs, beaucoup de Lorrains font ça à la maison dans leur congélateur.
Oui.
Donc, on le fait un petit peu mieux. Et donc, on enlève le noyau, on récupère les noyaux, on les nettoie, on les lave, on les sèche avec la chaleur produite par le surgélateur.
D'accord.
Et ensuite, on les concasse. On sépare l'amande des coques.
C'est ça.
Les coques vont servir à de combustible.
Ça ah oui, très tout bien. Est recyclé.
Et l'amande, on va la presser pour obtenir une huile. On obtient très peu d'huile. C'est une huile coûteuse, assez rare, mais qui a de très très belles qualités.
On a un marchand de savon, un fabricant de savon à Nancy, Bergassens, qui
Marie
utilise
de
les huiles de Mirabel pour faire un son savon qui s'appelle le Lorrain.
Très bien, bonne nouvelle. Elvira, je crois que notre dessinatrice Kat a encore sévi.
Oui, et cette fois, c'est à vous que c'est destiné ce dessin. Aïe. On voit un couple à Bruno.
Ah oui,
à Bruno. On voit un couple sourire jusqu'aux dents, qui a l'air d'esquisser un petit pas de danse. Et c'est intitulé « Scène d'allégresse en Lorraine, à l'apparition d'un globe jaune et chaud dans le ciel, la Mirabelle ». Et on voit cette espèce de petite nuée de billes jaunes dans le ciel, de petit soleil. C'est joli comme tout.
Ce ne sont pas des étoiles filantes. C'est pour vous. Merci beaucoup, Kat. Cyril Leclerc, j'imagine que vous êtes chef, évidemment, en Lorraine. La Mirabelle entre dans votre répertoire.
Oui. En plus, nombre de nos clients viennent en Lorraine, justement, à cette époque de l'année, pour déguster ou découvrir ou redécouvrir la Mirabelle.
Ça peut être dans le salé comme dans le sucré ?
C'est exact, oui.
C'est-à-dire ?
Donc en début de saison des Mirabelles, quand la sucrosité n'est pas importante, on se permet de la travailler dans le monde du salé avec un pigeon ou alors un rôti de veau ou une côte de veau ou alors du cochon. Mais maintenant qu'elle est bien bien avancée en saison, on est plus dans le sucré maintenant.
Plus dans le sucré, ça veut dire que plus son taux de sucrosité augmente, voilà. Plus vous exploitez effectivement, voilà. Évidemment,
c'est sucré.
Sa suavité, quoi.
Voilà,
et en début de saison, il y a un peu plus d'acidité, ça va avec des pigeons, des cochons.
On peut se permettre de travailler avec des viandes de cette qualité.
Est-ce que vous nous avez apporté la confiture que vous m'aviez promise ?
Oui, elle est là.
Waouh ! Parce qu'alors, justement, puisqu'il reste encore quelques jours pour profiter de la Mirabelle, partout en France.
Une petite semaine pour faire ses confitures, vite.
On peut faire ses confitures, absolument. Confiture de Mirabelle, c'est absolument extraordinaire.
Ah bah oui, c'est magnifique.
Surtout si, comme Cyril Leclerc, on a l'idée de mettre un petit pistil de safran.
C'est exact.
Alors, parce qu'il paraît quand même qu'il y a du safran
Dans le Toulousain.
En Lorraine.
On en a vu ce matin au marché, François Régis.
Absolument, c'est pour ça que je dis, ça d'ailleurs.
Ah bon, dans le Toulousain, il y a du safran qui est assez intéressant à travailler.
Confiture de Mirabelle alors, Cyril Leclerc.
C'est ça. La recette, moi je m'adapte toujours en fonction de la sucrosité du fruit, en fonction de sa maturité. Donc plus on avance, moins je mettrai de sucre et j'ai plus tendance à partir avec du miel.
Oui.
J'ai la chance d'avoir des abeilles dans mon domaine, donc avoir une quantité de miel assez importante, donc j'aime bien démarrer avec du miel.
Voilà. D'accord. 1 kg de Mirabelle mûre, 500 g de miel toute fleur,
oui.
1 g de stigmate de safran.
À la fin de cuisson.
Donc on lave les Mirabelles, on les dénoyote ?
Non, moi je cuis avec les noyaux.
D'accord.
Je cuis avec les noyaux et je trie les noyaux après.
Waouh ! Ça change tout ?
Ça change tout, oui.
Bon, qui fait de la confiture de Mirabelle à la maison ? Levez la main. Ah oui, quand même. Et qui enlève les noyaux avant la cuisson ? Ah oui, c'est presque autant de personnes. D'accord, vous êtes des flemmards.
Et pour le clafoutis, vous faites comment ? Avec ?
Ou sans noyaux ?
Sans.
Avec, c'est plutôt. Comme la cerise. Voilà. Donc avec noyaux, ouais. Vous êtes d'accord ou pas, chef ? La clafoutis de Mirabelle
Les deux se font.
D'accord. Donc vous cuisez 20 minutes avec les noyaux, pas forcément dans une bassine en cuivre ?
Si, non, pas, moi je le fais parce que j'ai la chance d'en avoir une, donc on le fait dans le respect, mais on peut le faire dans une autre bassine, il n'y a pas de souci.
Parfait, on laisse refroidir, on met en bocal.
Voilà.
Et on a une belle confiture de Mirabelle. Alors,
moi j'ajoute quelque chose.
Marie de Mesnova, mais je vous en prie.
Un tout petit peu d'eau de vie de Mirabelle à la fin de la cuisson, c'est quand même meilleur.
Un tout petit peu d'eau de vie de Mirabelle, ça c'est une bonne idée.
Bah oui.
Justement, j'imagine, chez vous, dans votre épicerie fine, Marie de Mesnova, que la Mirabelle se décline sous toutes les couleurs et les formes.
Toutes les formes, solide ou liquide.
Oui.
Alors le liquide, on pense évidemment à l'eau de vie, mais j'ai aussi du vinaigre 100% jus de Mirabelle.
Intéressant.
Et ça, pour déglacer le canard, c'est extraordinaire, le canard ou le porc.
C'est le vinaigre balsamique lorrain.
Oui.
D'autres produits à base de Mirabelle ?
Après ça, on va allier la Mirabelle et la truffe de Meuse avec de la truffe à belle. C'est une compotée de Mirabelle à la truffe. Ça va être superbe avec un petit foie gras. Au moment de Noël, ça va être top. Après, on a vraiment de nombreuses choses
Partager.
Voilà, il faut venir.
Est-ce que ça vous arrive, Marie de Mesnobla, de faire à la maison, j'ai pris un fou rire en préparant cette émission, du brûlot lorrain?
Oui, non, bien sûr.
Tout le monde sait ce que c'est dans la salle. Alors, quelqu'un nous dit ce que c'est, du brûlot lorrain, madame, si on veut bien lui passer un micro.
Marie-Françoise.
Bonjour Marie-Françoise. Alors, vous connaissez donc la définition de brûlot lorrain?
Oui, une jolie pyramide de sucre.
Oui.
Vous faites chauffer de l'alcool de Mirabelle, vous éteignez les lumières et vous videz sur votre pyramide de sucre.
Et vous faites brûler votre maison. D'où brûlot. Attendez, donc si j'ai bien compris, c'est des morceaux de sucre en pyramide, mais ça se passe où ? Dans un verre, dans une assiette ?
Sur un plat qui peut contenir la chaleur.
D'accord. Et
vous videz votre mirabelle chaude alcool dessus, vous éteignez les lumières et vous voyez le spectacle.
D'accord, c'est pas un truc de poireau, ça. Mais attendez, on voit le spectacle, mais on goûte quand, en fait?
Après, juste quand le après. Sucre est fondu à la cuillère, tous autour de la gamelle.
Mais c'est uniquement quand on est malade qu'on prend ça, non?
C'est Cyril Leclerc qui m'a confié cette recette.
Mais c'est ça,
mais c'est très sérieux, mais le brûlot, là.
C'est mon grand-père qui faisait ça, le grand-père de mon épouse qui faisait ça. Donc j'ai trouvé cette recette fort agréable, surtout pour le souvenir, parce que c'était quelqu'un qui était passionné par sa région et surtout pour la mirabelle.
Oui.
Et on en faisait en famille très régulièrement. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous la transmettre.
Eh bien écoutez, s'il y a des pyromanes qui nous écoutent, ils peuvent retrouver la recette sur notre site internet franceinter.fr à la page On va déguster.
Avec une fourchette, des baguettes et même avec les doigts, on va déguster sur France Inter.
Elvira a croqué Nancy jusqu'à la crise de foie. C'est plutôt intéressé au versant sucré, il faut bien reconnaître.
Ah oui, il faut reconnaître que je me suis glissée dans les pas de Stanislas Leszinski sans me faire prier.
Ça tombe bien parce que là, il y a Kat, notre dessinatrice, qui commence à s'impatienter et qui glisse un dessin. Et les macarons de Nancy,
on y vient,
justement. Vous avez raison, peut-être qu'on va en parler, il y a des chances.
Alors, on parlait du baba tout à l'heure avec Marie. Vous me disiez en préparant l'émission que c'était pas forcément la peine de se mettre trop en quête de baba à Nancy. Il y en a, mais il y en a pas forcément. Il y en a des très bons, notamment ceux que vous m'avez apportés.
Oui.
Les babas de Stanislas. Délicieux petit baba à la mirabelle. Bah tiens, regardez, où est-ce qu'il y a de la mirabelle encore? Dans les babas.
Et ben c'est parfait. Ça, c'est pour moi.
Et moi, oui, si vous le dites. Moi, je me suis surtout intéressée à deux questions cruciales. La première étant celle que pose le macaron. Le macaron, il est omniprésent à Nancy et en Lorraine en général. Pratiquement pas un artisan, boulanger, pâtissier qui ne propose sa version des macarons. Alors attention, c'est pas si simple de s'y retrouver quand on n'est pas nancéen. Le macaron des sœurs est à distinguer du macaron de Nancy. La maison des sœurs macarons, dirigée par un pâtissier que vous connaissez bien ici, Nicolas Génaud, est l'unique confiserie dépositaire de la recette historique des sœurs, une recette secrète depuis le XVIIIe siècle.
Alors,
c'est un mélange, enfin, pas si secrète, parce que je vais vous dire ce qu'il y a dedans.
1793,
exactement.
Hein, c'est ça?
Un mélange de blanc d'œuf, de sucre et d'amandes de Provence. Hein.
Oui.
Pas d'amandes de Californie, on parle d'amandes de Provence.
Et pas d'amandes de Lorraine non plus, je crois pas que ça pousse. Hein.
Je le crains. Hein. Ce terroir a beau être très très riche, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'amandiers.
Et puis les mirabelliers prennent trop de place en
c'est
fait.
C'est ça.
Ouais, faudrait essayer avec l'amande de mirabelle.
Ah, pas mal.
Ah, ouais,
un amandon,
ah,
ouais, c'est
oui,
une bonne idée.
Pas bête, ouais.
Il y a, c'est bizarre d'ailleurs que...
C'est une bonne idée.
Voilà, que les anciens n'y aient pas pensé. Plutôt à ce moment-là, l'amandon, on utilise bien après tout l'amandon d'abricot, effectivement.
Si, on le met dans la confiture, des fois.
Oui,
plutôt
pour,
de
pour donner
cuire.
Du goût.
Voilà, pour donner quelques amandons, pour donner un petit peu d'amertume.
Absolument.
Donc on revient à cette recette, qui est celle des sœurs bénédictines du Saint-Sacrement, les sœurs macarons. Alors ils ont cette forme craquelée, un goût d'amande pilée et une conservation assez étonnante qui peut aller jusqu'à 3 semaines.
Oui.
On vous recommande, quand vous ouvrez la boîte que je vous ai apportée, de les stocker dans le bas du réfrigérateur.
C'est joli, avec un papier,
c'est joli comme tout,
un papier à l'ancienne.
À l'ancienne. Alors il est croquant, goûtez-le François-Régis, parce qu'on va faire une dégustation comparative. Il est un peu dur, légèrement.
Mmh.
Il est un petit peu résistant sous la dent.
Moi j'adore ça.
Belle saveur d'amande. Hein.
Tout ce qui est à base d'amande.
Il n'y a pas d'extrait d'amande, hein. C'est de l'amande complètement naturelle. Si on les trouve un petit peu trop durs, est-ce que vous lisez le conseil qui est rédigé sur le papier d'emballage? On peut les mettre au-dessus d'une casserole d'eau bouillante.
Ah oui.
Pour les ramollir un peu.
Feu éteint quand même. Hein. Pour les ramollir un
une
peu.
Une émission aussi. Spéciale pyromane.
Extraordinaire, oui c'est ça. À mon avis on va être dénoncé par certains auditeurs.
Alors ce macaron des sœurs macarons appartient à la maison des sœurs macarons. Voilà. Il est différent du macaron de Nancy, c'est une autre appellation, qui n'obéit à aucune recette déposée.
Mm-hmm.
Chaque artisan peut en confectionner une, il n'y a pas de cahier des charges particulier. La tradition veut que la recette ressemble plus ou moins à celle des sœurs, mais la nature des produits importe peu. Grâce à vous, Marie, j'ai fait une rencontre il y a quelques
sympa.
Jours. Ah ouais. Une rencontre avec Nathalie Lalonde, qui fait, elle, des macarons plus moelleux, avec une pointe de vanille. Tiens, il n'y a pas de vanille dans les macarons des sœurs macarons. Des amandes espagnoles, cette fois, pas d'amandes de Provence, du
d'accord.
sucre glace et du blanc d'œuf. Un produit, mais que j'ai trouvé absolument sublime.
Vous l'ouvrez, s'il vous plaît?
J'y arrive pas, allez-y. Voilà.
Il n'est pas gourmand, non.
Vous avez vu le moelleux de ce macaron? Mais goûtez ça, si vous arrivez à l'ouvrir.
Ça va pas tarder.
Un produit confectionné à la main, tout ce qu'il y a de plus artisanal, que Nathalie fait fabriquer dans son labo, qui va pas tarder à être réaménagé, dernier cri.
Ça, c'est vraiment merveilleux.
C'est dingue ça, non ? Ouais. Ouais. Une pâte préparée la veille, reprise à la main le jour même en fonction de l'hygrométrie pour être bien sûr que le niveau de moelleux soit optimal. La recette n'est pas déposée, mais figurez-vous François-Régis qu'à l'origine, c'est également celle de sœurs, les sœurs Hay, H-A-Y, une recette qui a été héritée de son grand-père, Roger Lalonde.
Oh là là, attendez, Lalonde, comme le chocolatier Lalonde de la rue Saint-Dizier ou
voilà,
c'est...
exactement. Donc il y a bien une enseigne Lalonde, rue Saint-Dizier, en face du marché central, qui n'appartient plus à la famille Lalonde, puisque précisément la famille Lalonde, c'est Nathalie Lalonde, qui, elle, est dans le quartier d'Artem.
C'est cauchemar, là.
Non, c'est pas cauchemar, parce que tout ça coexiste de manière tout à fait pacifique. Et la maison Lalonde a effectivement repris l'enseigne et les recettes du grand-père de Nathalie il y a à peu près 40 ans. Et Nathalie Lalonde, elle, fait le pari de quitter un peu le centre-ville, ce qui est assez audacieux, et de s'installer à Artem, ce fameux quartier qui est encore un petit peu en construction. Donc on espère pour elle qu'il va prendre un peu plus d'ampleur.
Et je devine que Nathalie Lalonde fait aussi... on doit avouer, je l'ai déjà dit publiquement, etc., mais c'est vraiment mon bonbon préféré.
Calmez-vous, François.
Non,
c'est ce qu'il faut.
J'en mange depuis tout petit. Il y en avait dans le placard de la maison. Ma mère adorait ça aussi. J'allais piquer des... des bergamotes,
mais
faut
voilà,
le dire, dans une boîte en fer blanc. Et j'ai toujours aimé ça. Pour moi, c'est ma madeleine d'enfance.
Pas de panique, c'est pour vous.
Ben, j'espère bien.
J'en prendrai éventuellement
c'était
un
message
au passage.
Que je voulais vous faire passer,
voilà.
En fait.
Donc, évidemment, Nathalie Lalonde fait également des bergamotes, de vraies bergamotes à l'essence naturelle de bergamote de Calabre et pas d'ailleurs, fidèles à la recette d'origine. Mais les siennes ne portent pas le petit macaron bleu et jaune de l'IGP, indication géographique protégée.
Pourquoi ?
Parce que tout simplement, dans le cahier des charges de l'IGP, outre les contraintes de recettes, voilà, essence de bergamote de Calabre, la taille, le poids de 5 grammes, la translucidité, le fait qu'il n'y ait que de l'eau et du sucre et du glucose, il y a également l'obligation d'emballer chacune des bergamotes dans un petit sachet individuel. Ce qu'elle fait,
oui.
Mais elle ne voulait pas être tenue à cette obligation.
Un petit papier cristal.
Oui, parce qu'elle n'a pas l'équipement, ça coûte très cher cet équipement, donc elle ne peut pas forcément, elle ne produit pas les volumes suffisants qui assoiraient le fait qu'elle investirait dans cet équipement. Donc elle a fait ce choix-là.
D'accord.
De goûter ses bergamotes.
Incroyable.
Elles sont merveilleuses. Si vous voulez des bergamotes IGP, il y a encore 6 producteurs qui travaillent sous l'égide de l'appellation, qui travaillent également très très bien. Vous allez justement chez Lalonde,
oui.
Rue Saint-Dizier, à la Maison des Sœurs Macaron, vous allez à la confiserie Stanislas, il y a plein d'enseignes fabuleuses à Nancy, où trouver.
Vous savez que vous parlez sous le contrôle de Cyril Leclerc,
oui.
Notre chef, car vous avez un passé dans la bergamote.
Oui, j'ai travaillé chez Michel et Nathalie Lalonde.
Quand ?
Dans les années 90, j'ai eu cette chance extraordinaire.
Donc vous connaissez par cœur le processus de fabrication ?
Je connais, j'en ai fait énormément.
Le refroidissement du sucre cuit sur le
marbre. En fonction
de
l'hygrométrie, en fonction des marmes, en fonction de la. Donc j'ai eu cette chance extraordinaire de vivre ça, c'était un rêve d'enfant. Et j'ai eu cette chance de rentrer dans les locaux de Michel et Nathalie Lalonde.
Quelle splendeur. Rien que pour la bergamote, je viendrai bien m'installer et vivre à Nancy, ça c'est sûr. Dans un instant, Marie de Metz-Noblat va dévoiler aussi une superbe douceur qui est dans un petit bocal devant Elvira, à l'histoire absolument folle. On vous en dit pas plus, c'est une histoire de confiture.
La vie c'est bon, 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 mais pas trop quand même.
France Inter, je déguste, tu dégustes, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
C'était Vodou Game, la vie c'est bon et la vie est encore meilleure quand on est à Nancy. On dévore toutes les spécialités lorraines dans le superbe décor de l'Opéra National de Nancy. On se régale, il y en a absolument partout sur le plateau dont on va déguster. On ne peut pas déposer nos fiches.
Vous avez goûté ça?
Le fuseau lorrain? Mais oui, moi j'adore. Mais moi je connais le fuseau lorrain depuis un petit moment parce que je l'achète régulièrement chez un... Alors, j'ai le droit de le dire. Chez un charcutier traiteur de Metz qui s'appelle Imbert. Malheureusement, j'ai appris hier qu'il revendait un meilleur ouvrier de France. Bon, personne n'est au courant. On a parlé d'une ville que personne ne connaît. Je suis vraiment désolé de cet impair. Désolé, je me tais. Et je donne la parole à Marie de Metz-Nobla, justement qui nous parle de cette spécialité sucrée absolument incroyable. Ça, c'est une pépite du terroir français.
La confiture de groseille de Bar-le-Duc est pépinée à la plume d'oie.
Applaudissements. Quelle énergie, quel savoir-faire, quel patrimoine.
Depuis le XIVe siècle, figurez-vous qu'une excellente épépineuse fait 3 kilos, épépine 3 kilos de groseille par jour.
Non mais attendez, 3 kilos de groseille par jour, en voilà un savoir-faire à la plume d'oie, c'est ça?
À la plume d'oie pour éviter d'oxyder et de donner des mauvais goûts. Et on va véritablement confire. L'idée est de garder le grain de groseille le plus entier possible, de lui retirer ses 5 pépins et ensuite on confie. Notre ami Hitchcock ne descendait que dans les hôtels qui étaient capables de lui donner cette confiture au petit déjeuner. Et c'est vrai.
Et c'est absolument incroyable. J'imagine que l'énergie, le coût humain de l'épépinage, on dit
l'épépinage, oui. La belle épépinée. Vous avez entre les mains la belle épépinée.
Fait grimper quand même le
c'est
prix
C'est le caviar lorrain.
Et ça fait grimper le prix du pot.
Oui.
Ce petit pot-là, il fait combien de grammes?
Environ 18 euros pour 70 grammes de mémoire.
D'accord, mais bon, c'est aussi du savoir-faire. On n'a pas trouvé de mécanisation de l'épépinage.
Non, ça écrase.
Et on veut pas surtout.
Ça écraserait. Et il faut véritablement, il n'y a que le doigté humain qui va permettre de garder le fruit le plus entier possible.
Et ben moi je dis bravo.
Oui.
Et il y a un autre trésor assez méconnu, je dois dire. J'étais assez surpris quand vous m'en avez parlé. Il est question d'assaisonnement.
Il me dit, François-Régis me dit, rien ne vaut la fleur de sel de Guérande. Je dis, comment ça? Nous avons chez nous Marsal, Château Salin, Rosé Rosaline,
etc. C'est vrai que la toponymie a des connotations salées. Ouais.
Et vous avez là des pétales de sel à l'ancienne, de la saline d'un villageard. Pour moi, c'est le top du top. Vous en mettez quelques grains sur, je continue sur mon foie gras, et vous avez immédiatement, tout est rehaussé.
Est-ce que le chef utilise ce sel de gemme, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler?
Oui, c'est un très beau produit, en plus c'est à quelques kilomètres de chez nous, donc il faut en profiter.
Voilà, il n'y a plus la mer en Lorraine, mais il y a eu la mer, puisque finalement ce sel de gemme, c'est un sel de roche hérité d'une mer secondaire.
Tout à fait.
Datant d'il y a 200 000 millions d'années, c'est ça?
On ne les compte plus, mais c'est exactement ça,
Effectivement, donc vive le sel.
Et ça a été la richesse du duché de Lorraine et ce qui a permis à notre duché de rester indépendant le plus longtemps possible.
Et c'est bien ce qu'on disait, le terroir lorrain ne manque pas de sel. Facile. On se tourne vers Cyrille Leclerc pour une dernière petite recette. Revenons à la Mirabelle, cette ambassadrice de Lorraine, avec une recette dont j'avais jamais entendu parler, qui porte le nom de Vaute.
Oui, c'est ça.
Vous connaissez dans le public Vaute? Voilà, je passe vraiment pour un naïf. La vôtre, expliquez à tous nos auditeurs dans toute la France de quoi il s'agit.
La vôtre, c'est une, sans vouloir être péjoratif, c'est une variété d'omelette. Donc, on bat nos œufs, on incorpore notre... si on veut la faire dans le domaine du sucré, donc on peut une injonction de sucre, ou on n'en met pas si on veut partir dans le monde du salé en posant du fuseau lorrain dessus, ou du jambon. Donc, c'est un genre de crêpe soufflée entre l'appareil à crêpes soufflées et l'omelette, voilà.
C'est ça. Et on travaille donc farine, œufs, sucre, lait. On fait fondre le beurre jusqu'à ce qu'il devienne noisette. On l'incorpore.
Voilà,
on ajoute les mirabelles, mais alors des mirabelles crues, des noyautées.
Voilà, c'est ça. Ou après cuisson, on peut poser une confiture dessus ou une compotée, ce qui nous intéresse.
Une vôtre aux mirabelles, Bruno Collin, ça vous branche?
Ah oui, complètement.
Complètement.
Oui.
Et vous les mirabelles?
C'est bon.
Parce que vous les cueillez, vous les vendez. Vous les dénoyautez, mais est-ce que vous les mangez aussi?
Ah oui, beaucoup.
Au naturel?
Beaucoup au naturel, cuisiné tout l'hiver, toute l'année, tous les jours.
Et cuisiné comment?
Alors, je suis un peu comme notre grand chef. Quand elles sont un peu acidulées en début de saison, J'aime beaucoup les grignoter et je les cuisine plutôt avec des viandes. J'aime vraiment bien le magret de canard au Mirabelle.
Ben voilà.
Je fais cuire mes magrets de canard comme d'habitude. Ensuite, j'évacue le trop de graisse.
C'est ça.
Je mets une cuillerée de miel.
Oui.
Et je fais revenir mes mirabelles juste déglacées.
Très bonne idée.
Avec une pointe d'épices.
Oui, parfait.
Cannelle, poivre.
Et voilà. Ça,
ah bah génial. C'est génial.
On va essayer à la maison, ça nous branche bien.
Truffe. Du miel à la truffe de Meuse.
Et ben voilà, ah, ça existe.
Ah, j'essaierai. Oui,
du miel à la truffe de Meuse, c'est parfait. Et puis un dernier tout petit mot, juste pour parler liquide, parce qu'il y a aussi du vin en Lorraine. On n'a pas le temps de développer, mais c'est le fameux vin blanc.
Le vin, le sacré vin blanc, le Gris de Toul.
Le Gris de Toul.
Ou l'Auxerrois.
Que votre femme Sophie sert au château d'Adéménil. Ouais,
où on se donne un point d'honneur à en vendre un maximum à nos clients étrangers.
Oui.
Je pense que c'est une très belle découverte.
Très bien.
Pour notre région, et nous sommes particulièrement attachés à ce Gris de Toul.
Parfait, et ben, le message est passé. Merci à tous les trois pour ce bon moment de convivialité. À la sauce Lorraine. Un dernier petit dessin de Kat.
On voit Hitchcock, a priori, avec son ventre protubérant et son costume, qui dit « Confiture de groseille de bar et pépinée à la main, le meilleur sang au cinéma ».
Ah, pas mal. Bravo. Bravo Kat, merci beaucoup. Un dessin par jour, c'est son blog. Allez goûter la cuisine de Cyril au château d'Adoménil à Lunéville, que vous tenez donc, comme je le disais, avec votre femme Sophie. L'épicerie du goût, c'est la magnifique épicerie très 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 fine. Une épicerie de terroir qui est 4 rue Vendémont à Nancy. Hein.
Place,
excusez-moi, place Vendémont. Et vive la Mirabelle. Merci Bruno Collin de nous avoir fait partager votre amour pour ce fruit. Merci aussi au salon Le Livre sur la Place. Merci évidemment à la ville de Nancy pour son accueil. Merci à la fine équipe dont on va déguster, Michel Biou, Nadia Chougui, Djoubaka pour la programmation musicale. Merci à toutes les équipes techniques, partenariat de France Inter. Et puis à ne pas rater, Le Masque et la Plume, enregistré dans le cadre du salon Le Livre sur la Place, diffusé ce soir à 20h. Le Livre sur la Place où l'on va aller faire un tour d'ailleurs, hein, cet après-midi dimanche, à la rencontre de nombreux auteurs. Il y a par exemple cet après-midi Elisabeth Badinter, Daniel Picouli ou André McKean. À dimanche prochain, si vous avez encore faim. Salut Nancy!